Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
The winner is William Friedkin. This is a tremendous honor, and I'm very proud to accept it.
In olden days, evidence of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Au sommaire aujourd'hui, le premier volet d'une série de deux émissions entièrement consacrée à un géant du 7e art qui nous a quittés en 2023, William Friedkin. Lors de cette émission, vous pourrez écouter des propos de Jean Touris, auteur de Les démons de William Friedkin, un essai passionnant qui vient de paraître chez Marest Éditeur. L'équipe de Culture Prohibée remercie Pierre-Julien Marest pour son aide sur cette série d'émissions. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer William Friedkin, je suis accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, et également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, un friedkinophile devant l'éternel, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et salut à toutes. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de David Gordon Green ?
Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un cinéaste que l'on aime tout particulièrement et qui est un cinéaste passionnant. Alors évidemment, je parlais de William Friedkin et William Friedkin, quand on parle de William Friedkin, beaucoup de choix peuvent s'offrir à nous pour définir le contenu d'une ou de plusieurs émissions. On aurait pu, par exemple, vous repasser des extraits, des entretiens qu'on a eus avec lui. Une partie de l'équipe a pu le rencontrer, par exemple, lors de sa venue à Strasbourg, et ça coïncidait avec la sortie de Killer Joe. Thomas et moi l'avons rencontré lors de la ressortie de Sorcerer. D'ailleurs, il avait affublé Thomas de ce pseudo étrange, on n'a jamais vraiment compris pourquoi, mais il l'a appelé Daddy, hein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Thomas a une tête de papa, je ne sais pas. Pour Friedkin, il a une tête de papa, voilà. Pour moi, il a plutôt une tête de psychopathe, de loup-garou picard, mais pas une tête de papa rassurant. Bon, remarquez, les personnages chez Friedkin étant ce qu'ils sont, c'est vrai que Thomas a cette part d'ambiguïté en lui qui en fait un personnage tout à fait friedkinien. Alors, on aurait pu vous repasser des extraits de ses entretiens. On aurait pu aussi vous faire, voilà, vous reparler de l'exorciste, parce que comme il y a le film de David Gordon Green, comme Thomas l'a rappelé dans l'introduction, qui sortait. On aurait pu faire des choses comme ça, vous parler de ces chefs-d'œuvre. En gros, vous reparlez de ce dont on vous a déjà parlé. Hein. Donc, on a décidé d'aborder Friedkin, nous, sous un autre angle. On aurait pu, comme Thomas, on avait eu l'idée, parler des BO chez Friedkin, où il y a toute une histoire à chaque fois que ses compositeurs. Enfin, c'est très particulier, les BO chez Friedkin. Mais l'ami Thierry Jousse en a eu l'idée avant nous. Il a été plus rapide et il a fait un excellent numéro de Ciné Tempo sur le sujet. Alors du coup, nous, on s'est dit que Friedkin, en fait, c'était des films connus, des BO assez hallucinantes, mais aussi toute une filmographie parallèle, toute une filmographie assez méconnue et assez singulière en fin de compte. D'ailleurs, on va tout de suite écouter Jean Touriste. Alors Jean Touriste, c'est l'auteur d'un super essai. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un essai qui, pour moi, a dit l'essentiel sur Friedkin en, comment dire, avec un style très épuré. C'est-à-dire que Jean Touriste, c'est un homme qui a l'art de la synthèse. Il a réussi à bien synthétiser. Il dit l'essentiel sur Friedkin dans cet essai que je trouve passionnant qui s'appelle « Les démons de William Friedkin ». Alors cet essai de Jean Touriste, il est disponible chez Marest Éditeur. Bon, la difficulté qu'on a eue avec Jean Touriste, que l'on salue, c'est qu'on a pu s'entretenir avec lui, mais que malheureusement, il avait un problème téléphonique. Enfin, il avait un problème de liaison. Donc le son est assez mauvais. Donc on va vous permettre d'écouter des extraits de cet entretien tout au long de ces deux émissions, mais on ne diffusera pas l'entretien dans son intégralité de manière à pas trop vous casser les oreilles. Non pas que ce que dit Jean Touriste n'est pas passionnant, bien au contraire, mais c'est simplement que vous allez entendre il y a un petit bruit de fond, un petit grésillement pendant cet entretien qui c'est vrai, peut se révéler particulièrement épuisant à la longue. Hein. Et en tout cas, Jean Touriste, quand on l'a interviewé, il est tombé d'accord avec nous, en fait, sur le fait qu'il existait vraiment toute une filmographie parallèle de Friedkin. D'ailleurs, on va tout de suite écouter Jean Touriste, hein, donc l'auteur des démons de William Friedkin, qui revient sur cette filmographie parallèle et qui nous fait d'ailleurs un petit focus sur Le Coup du siècle et aussi sur Blue Chips, enfin qui revient sur cette filmographie parallèle dans laquelle on va retrouver des thèmes chers à l'ami William Friedkin.
Et d'ailleurs, Les démons de William Friedkin, votre ouvrage, là, moi étant passionné de Friedkin, un peu comme vous, hein, je pense que tous les deux on est un peu obsédés par son cinéma. On n'est pas qu'à deux d'ailleurs, il y a du monde. Il y a une volonté, hein, de balayer toute la filmographie de Friedkin. Vous en parliez à l'instant, hein, le film de basket, Blue Chips par exemple, pour lequel moi j'ai une tendresse particulière, je le trouve intéressant. Et même des téléfilms les moins connus, comme Cat, la suite, enfin voilà, jusqu'au documentaire, les casse-coups, tout ça. Enfin, il y a presque en fait une sorte de filmographie parallèle, Friedkin. Il y a les films qui l'ont, il y a les grands films, L'Exorciste, Police fédérale Los Angeles, French Connection. Enfin, il y a les grands films, et puis il y a tous ces films qui viennent à côté, en fin de compte, qui ne sont pas si connus que ça. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette sorte de... un peu cette filmographie parallèle de Friedkin ?
Elle est assez bizarre, je dirais. Fascinante et bizarre. Bon, par exemple, qu'est-ce qui pousse William Friedkin, à un moment donné, à mettre en scène le coup du siècle, Deal of the Century, avec Chevy Chase ? Par exemple, qui n'est pas du tout un film écrit par Paul Brickman, qui avait fait Risky Business avec Tom Cruise. Ça n'a rien à voir avec Friedkin, par exemple. C'est un film que j'apprécie, certes, mais c'était plutôt pour un cinéaste comme, je dirais, John Landis, quoi. Et pourtant, Friedkin s'intéresse, peut-être pour le côté virulent, le côté humour noir et méchant, sans doute. Mais bon, Chevy Chase, Friedkin, effectivement, par exemple, c'est étrange. De même, on peut le retrouver effectivement en train de tourner un film de basket écrit par Ron Shelton. A priori, l'association Friedkin-Shelton, ça paraît incongru comme ça. Donc, il y a un côté insaisissable aussi, dans ses téléfilms également, dans les épisodes qu'il a réalisés pour la The New Twilight Zone, la cinquième dimension et les contes de la crypte également. Donc oui, ça crée aussi la mythologie quelque part, quoi. Il y a les films que tout le monde connaît, les films que personne ne connaissait à l'époque mais que tout le monde connaît maintenant, et ces obscurs objets qui... une autre facette de Friedkin, paradoxalement pas la plus sombre, parce que c'est dans ses films à côté qu'il se laisse aller à l'humour, par exemple, même si c'est pas vraiment un cinéaste de l'humour, hein, Friedkin. Voilà, donc c'est tout aussi intéressant et ça éclaire encore plus, je trouve, des chefs-d'œuvre comme Sorcerer ou Police Fédérale. Tout est lié quelque part et tout reste mystérieux parce que, encore une fois, certaines de ses décisions, parfois des décisions commerciales, je pense aussi, donne encore plus d'ambiguïté à ce cinéma qui, déjà à la base, va très loin dans l'ambiguïté. Donc moi, je trouve cette filmographie arrière sont aussi intéressantes, finalement, dans ses intentions, en tout cas, que, en tout cas pour moi, les chefs-d'œuvre absolus de Friedkin, quoi. Les chefs-d'œuvre reconnus, on va dire. Ou en tout cas reconnus aujourd'hui, même si, à l'époque, pas trop, mais bon.
Si l'on veut, les amis, s'attarder sur cette filmographie parallèle, on peut la scinder un peu en deux parties, hein, pas chronologiquement parlant, hein, je parle. Mais on peut prendre d'abord ses travaux télévisuels, ou pour des plateformes, hein, d'ailleurs, hein, où télévisuellement, il va faire du documentaire. Alors, il va y avoir Mayhem on a Sunday Afternoon, qui est un documentaire, j'y reviendrai, hein, sur les 49ers, une équipe de football américain. Il va y avoir Les Casse-Coups, The Bold Men, qui est, comme son nom l'indique, qui est un documentaire sur des casse-coups, mais on y reviendra aussi en détail. Et puis après, il y a des documentaires, alors qui ne sont pas forcément tous télévisuels, qui ont connu des fortunes diverses, qui sont parfois disponibles sur des plateformes. C'est The People versus Paul Crump, qui a été interdit à l'époque, hein, sur lequel on va revenir aussi, parce que c'est passionnant. The Devil and Father Amos, on y reviendra aussi. Et puis, sa conversation avec Fritz Lang, qui à la base est quelque chose qu'il avait fait pour le travail, c'est-à-dire qu'il voulait interviewer plusieurs réalisateurs qu'il aimait bien et pouvoir essayer d'en tirer quelque chose. En fin de compte, aujourd'hui, il reste cette interview brute de décoffrage, hein, qui n'est pas montée, rien du tout, où effectivement, il y a cet échange entre Friedkin et Fritz Lang. Et puis, il y a des séries télé et des téléfilms, dont certains s'inscrivent dans des séries télé. Il y a une version de 12 Hommes en colère, par exemple, qui est sorti au moment des 40 ans du film de Lumet. Il y a après des... Alors, 4 commandos antiterroristes, alors 1 et 2, est-ce que c'est une série, pas une série, parce qu'à la base, bon, c'est quand même une série de téléfilms, est-ce qu'on peut considérer ça comme une mini-série? Et puis, il va y avoir sa participation, alors pour le coup, à une série qui est une vraie série, avec des suites dans les épisodes. Il va faire 2 épisodes des Experts. C'est ici Las Vegas, hein, la série originelle. Et puis, il va participer à ce que j'appellerais, moi, des anthologies. D'ailleurs, il va débuter par ça, avec un épisode d'Alfred Hitchcock Hour, un épisode de la 4e dimension, mais nouvelle formule, hein, qui en France s'appelait la 5e dimension, et un épisode des Contes de la Crypte, ainsi qu'une sorte de téléfilm qui s'appelle Jailbreakers, qui est en fait fait partie d'une anthologie, c'est pareil, qui rend hommage aux productions... Corman des années 50. Ça, c'est tout ce qu'on pourrait rattacher à l'aspect un peu télévisuel de son travail. Et puis après, il y a, pour moi, hein, il y a son travail pour le cinéma qui peut être scindé pour moi en trois parties. Il y a les films des débuts, avec Good Times, The Night They Raided Minsky's, et puis 2 films qui sont des bascules un peu petit à petit vers les thèmes friedkiniens. Je vous le dis, je ne les cite pas dans l'ordre chronologique, hein. The Birthday Party et The Boys in the Band. Il y a les films oubliés, où là, c'est des films où il est... c'est des films qui ont été oubliés, mais qui ont été des gros films quand même, hein. Ted Vitt cherche coffre plein, Blue Chips, Le Coup du siècle,
Et puis, bon, j'ai mis dedans, bon, c'est pour la Paramount, c'est tourné avec Guillermo del Toro qui l'assistait pour des raisons d'assurance, même si del Toro dit qu'il n'a rien filmé de spécial, c'est sa version d'Ouragan sur le Ken qui sort là, quand vous écoutez cette émission, qui est disponible sur des plateformes, et qui s'appelle The Ken Mutiny Court Martial. Et puis, dans ces films cinéma, il y a un film cinéma qui, moi, pour moi, cristallise beaucoup de choses, qui est pour moi un joyau noir et qui est un film oublié qui a connu deux montages, un film que Friedkin, on va développer, ne semblait pas porter dans son cœur, c'est Rampage, le sang du châtiment, film qui a connu pas mal de déboires, qui n'est pas sorti sur support numérique, qui risque de ne jamais sortir parce que visiblement, c'est De Laurentiis qui produisait et il y a eu des problèmes, je crois, de faillite de la société de production, enfin voilà, qui font que ça a condamné le film un peu à malheureusement, être délaissé. Et pourtant, ce film-là, Le sang du châtiment, il est choisi pour le numéro spécial de Friedkin de Mad Movies, qu'aurait pu mettre quand même L'Exorciste, par exemple. Et ils choisissent de mettre en avant Le sang du châtiment. Et pourtant, Jean Touris, l'auteur des démons de William Friedkin, lui, c'est pareil. Il a un avis qui est assez proche du nôtre, hein, sur Rampage, le sang du châtiment. D'ailleurs, on va tout de suite écouter Jean Touris, puis après on va engager les débats entre nous. On va tout de suite écouter Jean Touris, donc l'auteur des démons de William Friedkin, paru chez Marest Éditeur, au sujet du sang du châtiment de Rampage, qu'il considère comme l'un des plus grands films de Friedkin, et injustement un peu tombé dans l'oubli. Donc on écoute tout de suite Jean Touris au micro de Culture Prohibée. Alors, vous abordez dans votre livre, hein, Les démons de William Friedkin, donc Jean Touris, là, qui est paru chez Marest Éditeur, vous abordez aussi un film, d'ailleurs une très bonne BO de Morricone, si ma mémoire est bonne, c'est Rampage, le sang du châtiment, qui est longtemps resté un film, moi je l'aime beaucoup en fait, hein, et qui est longtemps resté un film assez méconnu, tout du moins, bon, moi j'ai encore la VHS d'époque, mais c'est vrai que le film n'est jamais ressorti sur support physique, DVD, Blu-ray, je crois, ou peut-être très récemment il est réapparu sur des plateformes de streaming, mais il avait complètement disparu. Ce film, en plus si particulier, dont les montages ont varié en fonction de la position de Friedkin sur la peine de mort, et qui je trouve est un très grand Friedkin, Rampage, le sang du châtiment. Les deux versions d'ailleurs, les deux montages, ça n'altère en rien la qualité du film. Vous dites même dans votre livre qu'il serait revenu, ça je le découvre en lisant votre livre, qu'il serait revenu quand même à la fin sur sa décision. Il a été anti-peine de mort, après pro-peine de mort, et puis à la fin il aurait changé d'avis encore une fois. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre livre. Quoi qu'il en soit, il en reste un film qui mériterait quand même de une vraie ressortie dans de bonnes conditions. Quoi.
Ah ouais, moi il faut, c'est urgent. C'est même incroyable que ce film... Il y a une de mes bénéfices aujourd'hui, ne serait-ce que d'un petit coffret remasterisé. Ben, voilà, moi j'ai des copies du film, je l'avais en VHS comme toi, et j'ai des copies du film et trouvées effectivement sur des sites, quoi. Et difficilement d'ailleurs, en plus. Difficilement. Et c'est un film que beaucoup de personnes aimeraient voir et n'ont jamais eu l'occasion de le voir, en fait. En plus, le film est passé inaperçu, évidemment. Il n'est pas sorti aux États-Unis sur le coup. En France, on ne peut pas dire que la critique se soit enthousiasmée. C'est vraiment dommage parce que c'est un des plus grands Friedkin, je trouve, et c'est surtout un des films les plus durs, quand même, je trouve, de toute la filmographie du cinéaste, mais également de la décennie, quoi. Enfin, un des films les plus malsains, les plus durs à regarder. Il faut vraiment... Quand on décide de revoir Rampage, le sang du châtiment, on se lève pas le matin en se disant tiens, je vais revoir ce film aujourd'hui. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché, quoi. C'est sans pitié, sans concession. C'est vraiment le mal dans ce qu'il a de plus parfois inacceptable, c'est-à-dire le meurtre d'enfants, par exemple.
Les enfants qui souffrent pas mal d'ailleurs dans les films de Friedkin, qui souvent expient les péchés des adultes. Et d'ailleurs, le Rampage, Le sang du châtiment, moi, c'est un film qui m'avait habité, poursuivi après la fin de la première fois où je l'ai regardé, parce qu'à la fin, enfin, dans le montage original, il y a un dialogue entre le père et le fils à la fête foraine. Ça se termine comme ça. Et moi, je me souviens que j'étais resté complètement sidéré, en fait, devant l'écran.
Ouais. Je me rappelle de cette fin qui est difficile à interpréter, d'ailleurs, avec le recul. Mais on sent pas trop l'espoir, quand même.
Ah, c'est... Bon, c'est un grand film. On a le jeté une bouteille à la mer. Je pense que c'est compliqué d'avoir une copie de qualité. C'est ce qui fait sans doute la difficulté pour le sortir, mais c'est vraiment un grand film.
Écoutez Culture Prohibée. Thank you.
Après, c'est quelques mots de Jean Touris. Moi, je vous propose de revenir un peu en arrière, les amis, puisque le Rampage, en fait, c'est un film qui traite de la question de la peine de mort. Alors, on reviendra, selon les montages, sous quelle forme, quels sont les angles choisis, parce que c'est pas si évident que ça qu'il y en a un qui est pro, anti. Enfin, si, c'est évident pour le deuxième montage, mais le premier montage n'est pas si évident que ça. On en reparlera, l'ambiguïté étant une des caractéristiques principales du cinéma de Friedkin. Mais il faut savoir que l'acte de naissance de Friedkin, pour le monde entier, en tout cas aux États-Unis, puis après pour beaucoup d'autres cinéastes, c'est The People versus Paul Crump, qui est un film qui traite de ce sujet. Hein. C'est un faux reportage. Hein. D'ailleurs, Friedkin dit lui-même que la vérité ne l'intéresse pas, même s'il a filmé pas mal d'histoires vraies ou dites vraies, en tout cas, et que ce qui l'intéresse, lui, c'est de la mettre en scène, de la transcender, d'en faire autre chose. Là, c'est un vrai faux reportage, quelque part, sur Paul Crump, qui est dans le couloir de la mort, hein, et qui est en tôle. Hein, et d'ailleurs, le début du film est assez saisissant, puisqu'on a tout de suite un Paul Crump qui est filmé de côté, qui se tient au barreau de la prison. Ensuite, il est filmé de face, en contre-jour, très, très, très impressionnant. Et puis, il y a un gros plan sur son visage, on comprend que ça va être... On voit déjà... que ce n'est pas un docu lambda, que, malgré que ce soit un truc produit pour être diffusé en télé, que ce n'est pas un docu lambda, qu'il y a déjà un gros travail de découpage dans ces premières minutes. Et même si lui, il dit Friedkin, parce que Friedkin a toujours considéré son cinéma comme mineur, il ne se considère pas comme un grand cinéaste. Moi, je pense qu'il avait une plus haute opinion que ça de lui-même, mais qu'il ne le disait pas, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un très grand cinéaste. Et... tout le documentaire va être comme ça, ultra découpé, très dynamique, avec beaucoup de valeurs de plan différentes, beaucoup d'angles de vue singuliers. On va filmer les gens du dessus, il y a des contre-plongées, des gens qui sont filmés en contre-jour. On va utiliser les ombres. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément énormément quand même dans des documentaires. Et ce documentaire, il a un côté très film noir. Le noir et blanc accentue ça. Mais en gros, il raconte quoi ? Il raconte... l'histoire d'un journaliste du Daily News qui va enquêter sur ce Paul Crump, qui existe, Paul Crump, qui est dans le couloir de la mort, en fait, et qui attend d'être exécuté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Friedkin alterne des images de l'enquête de ce journaliste. Et il entrecoupe tout ça de reconstitution de ce qui est arrivé à Paul Crump. Avec d'ailleurs un meurtre assez gore, hein, quand même, hein, dans sa reconstitution. Et on voit aussi le quotidien des prisonniers qui cantinent, tout ça. Enfin, il y a plein d'éléments, des choses qu'on ne voyait jamais. On les voit se coiffer entre eux. On est en 62, ce n'est pas des choses qu'on voyait forcément énormément. On a déjà la patte Friedkin avec cette caméra très mobile, beaucoup de gros plans. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il va se passer que le film va déclencher une véritable révolution, puisque grâce à ce film, Paul Crump ne va pas être condamné à mort. Alors, les versions diffèrent. Après, certains disent sa peine a été commuée en prison à vie. D'autres disent qu'il a été libéré. Dans le documentaire Friedkin Uncut, on dit qu'il a été libéré. Alors que moi, dans ce que j'ai lu, des livres écrits... par et sur Friedkin, sa peine aurait été commuée en prison à vie. Donc je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Paul Crump. En tout cas, il n'a pas été exécuté. Ce qui fait que pour beaucoup, ça va tout de suite crédibiliser Friedkin et ça va donner quand même, mon cher Thomas, hein, une crédibilité à celui qui n'est pas encore le grand cinéaste qu'il deviendra.
C'est sûr que quand on signe un documentaire qui sauve un homme de la chaise électrique, on acquiert un certain statut. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui a été longtemps difficile à voir chez nous. Hein. Il n'y avait que des VHS américaines ou même des DVD américains. Je crois qu'il n'est pas sorti en France de toute façon. Hein. Comme tous les documentaires télévisuels de Friedkin qui sont, enfin, de ce que j'ai vu, qui sont intéressants, qui portent vraiment son cinéma, ce qu'il va faire par la suite. On retrouve des images dans ses films suivants, etc., qu'il avait déjà mis en scène dans ses documentaires. Je pense notamment à The Bold Men, hein, les casse-cou, où on retrouve on voit déjà des images qu'on peut retrouver dans Police Federal Los Angeles, par exemple. Donc on voit déjà dans The People versus Paul Crump cet intérêt pour William Friedkin pour le genre policier, le film noir, le film et les ambiguïtés. Hein, déjà, c'est dans ce documentaire-là.
Le film aussi est saisissant. Il y a une scène d'interrogatoire qui est assez impressionnante. Et puis surtout, il y a... Parce qu'il y a une scène d'interrogatoire quand même qui va loin. C'est-à-dire où on voit un homme noir se faire mettre en sous-vêtements. Scène qu'on... Alors, pas vraiment à l'identique, mais un homme noir en sous-vêtements lors d'un interrogatoire... On pense tout de suite à Cruisine, avec cette fameuse scène de l'homme en slip qui surgit pendant un interrogatoire, dont on se demande d'où elle vient. Elle vient peut-être de là, en fait, cette scène. Hein. Et on voit surtout des policiers assez sadiques qui torturent un homme noir qui est pendu par les mains et qui est torturé. C'est-à-dire qu'il y a un propos qui est quand même assez costaud. Et puis, la mise en scène, à un moment, par le biais de la mise en scène, il nous met à la place d'un homme qui va être exécuté. Il filme la chaise électrique. Il ne filme pas une exécution. Il filme simplement la chaise. Mais avec la magie du découpage, du montage, c'est une des scènes les plus effrayantes qu'on puisse voir par rapport à l'exécution sur une chaise électrique. Et c'est assez saisissant. Le film, de toute façon, va faire son effet, puisque, comme on l'a rappelé, il a permis d'éviter à ce que cet homme qui était condamné à mort... Hein, soit exécuté. Donc c'est dire l'importance de ce film. En plus, alors ce que dit Friedkin, enfin j'allais dire aujourd'hui, bon, malheureusement William Friedkin ne dit plus rien aujourd'hui, mais ce qu'il a dit dans ces dernières années, Friedkin, c'est que la veille du dernier jour de tournage, Paul Crump lui a dit qu'en fait il était coupable. Voilà. Et Friedkin dit, mais j'ai quand même monté mon film comme je le souhaitais au départ, avec le propos que je voulais défendre. Voilà. Propos qui est quelque chose... Il a un rapport très ambigu, d'ailleurs, Friedkin à la peine de mort, parce que selon Jean Touris, dans son livre « Les démons de William Friedkin », là, qui est paru chez Marest Éditeur, quand il parle de Rampage, le sang du châtiment, par exemple, il dit bien, Jean Touris, qu'en fait, Friedkin, il a... il était plutôt contre la peine de mort quand il fait le premier montage, tout en gardant une porte un peu vers l'ambiguïté, mais ça, on en reparlera, mais il reste contre la peine de mort. Après, il bascule... plutôt pro-peine de mort dans des cas précis. Hein. Il n'était pas non plus pro-peine de mort pour tout, mais dans des cas précis. Dans des cas d'assassins tels que celui décrit par Rampage, par exemple, qu'il pense incurable. Et puis, pareil, selon le livre de Jean Touris, qu'en fin de vie, Friedkin était revenu un peu en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'il avait encore changé d'avis. Ce qui expliquerait aussi pourquoi peut-être il en avait marre, peut-être qu'on lui parle de Rampage, qu'il n'a pas l'air de considérer lui comme un film important dans sa filmographie. Ou alors, c'est un film qui lui a laissé des mauvais souvenirs. Il y a des films comme ça. On a pu, nous, lors d'échanges différents, sur des cinéastes différents. Par exemple, Yves Boisset ne veut pas parler de son film adapté de Manchette. Faut la tuer, voilà. Parce qu'il a eu une mauvaise expérience au moment où il l'a fait. Le film est pourtant très bon. Donc, il y a parfois des... Voilà. Et Rampage, là, voilà, c'est... C'est pourtant un film très très bon là-dessus. Et alors, tu parlais, Thomas, des casse-coups. Alors, les casse-coups, il est passé en France. Bon, j'en ai une vieille trace VHS, comme tu sais, c'est comme ça qu'on l'a vu. The Bald Men, de 65. Donc, c'est un... c'est comment dire... Un programme télé, en fait. Parce que c'est comme ça que... En fait, Friedkin, c'est un... Un gars, c'est un peu un... Un gars sorti de nulle part. C'est un type qui vient de... qui n'envisage pas de faire du cinéma au départ. Il va à l'école, il a une scolarité quoi, voilà. Et puis il se retrouve à s'occuper du courrier parce qu'il cherche du boulot. Il se retrouve à bosser dans des studios de télévision et à s'occuper du courrier. Et quand... Et puis à un moment, il se met à s'intéresser au cinéma, puis il décide de passer du courrier au cinéma. Mais comme il y en a plein, hein, je veux dire, Sidney Lumet, tout ça, qui ont connu des trajectoires identiques. Hein, et il se met à travailler pour un producteur qui s'appelle David L. Walper, qui a un peu produit du cinéma, par exemple L.A. Confidential, l'excellente adaptation d'Elroy par Curtis Henson, mais qui a surtout fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télé. Et il y avait une émission de télé qui est une émission de télé spécialisée dans le documentaire, pour laquelle il va faire travailler Friedkin, une émission de télé qui est narrée, dont les introductions sont narrées par l'acteur Van Heflin. Van Heflin qui était l'acteur de 3h10 pour Yuma, L'Emprise du Crime, Shane aussi, le fameux L'Homme des Vallées Perdues. Et à chaque fois, c'est un docu avec un documentaire, avec un sujet un peu... Un peu marquant, parfois un peu putassier aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Et Friedkin a pas mal travaillé sur cette série de documentaires. Alors, on ressort plusieurs documentaires, dont un qu'on n'a jamais vu, qui s'appelle The Thin Blue Line, la fine ligne bleue, qui parle de la police, où il suit des policiers en action. Et pour ceux qui l'ont vu, paraîtrait que c'est... C'est un peu, pas le brouillon, mais on retrouve des choses qu'on va retrouver dans French Connection. Voilà. Mais on a la possibilité, grâce à une diffusion qui a eu lieu sur la chaîne Planète, une vieille chaîne de ce qu'on appelait encore le câble à l'époque. Donc j'avais pu enregistrer à l'époque donc, The Bald Men, les casse-coups. Et puis sur le net, on peut trouver sur YouTube Mayhem on a Sunday Afternoon. Ah, c'est pareil, qui est assez... qui est assez étonnant, puisque là, on peut faire des liens entre Mayhem on Sunday Afternoon et Blue Chips. Mais on y reviendra. On va rester sur les casse-coups, puisque Thomas, tu en as parlé. Et ce qui est intéressant, les casse-coups, c'est quoi? C'est bon men, c'est des mecs qui prennent des risques. Et on voit tout type de métier. Et on voit un soudeur qui travaille sur des charpentes métalliques très en hauteur. On voit un plongeur qui plonge de très haut à Acapulco pour épater les touristes. On voit un dompteur d'incendie de puits. Et j'ai regardé, c'est vraiment un personnage hyper connu aux États-Unis. Il était payé des millions. C'était le seul type capable d'éteindre des incendies dus à des puits de pétrole. C'était hyper dangereux. Il fallait faire user un autre gaz pour aller contre le feu et tout ça. Enfin, c'est un truc de psychopathe. Hein, voilà. On voit des chasseurs de monstres, un dompteur, un extracteur de venin, un mec qui fait du rodéo, le fameux El Cordobés, Manolete et le torero. Hein, même Vanessa Paradis avait consacré une chanson à Manolete, et c'est un torero très très connu en Espagne. On voit un surfeur, on voit un truc, un numéro complètement débile, hein, entre un père et son fils mexicain, et le fils est tireur d'élite, il tire sur des cigarettes qui sont dans la bouche du père et tout. On voit pas trop, il y a des trucs où on n'arrive pas trop à faire le lien. Et puis, il y a un parachutiste. Alors, il garde pour la fin vraiment le clou du spectacle. Il y a un parachutiste cascadeur qui saute sans parachute. Là, il prend beaucoup plus de temps pour filmer ça et nous le détailler. Et puis, mon cher Thomas, il y a le clou du spectacle. Vraiment, c'est le type qui va réussir à faire rouler une bagnole, selon ce qu'ils disent dans le film, là, à plus de 800 km/h. Après plusieurs essais, en risquant sa vie. Il y a même quelques scènes de mort, hein, d'ailleurs, dans le film. Hein. On voit un parachutiste dont le parachute ne s'ouvre pas se péter la gueule. On voit un mec qui avait essayé de battre ce record de vitesse qui meurt à cause d'un pneu qui explose. C'est effectivement un pneu qui explose à 800 km/h. Vous avez peu de chance d'en réchapper. Hein. Voilà. Et on trouve dans ces casse-coups, t'en parlais à l'instant, Thomas, les bribes, des choses qui vont revenir dans son cinéma. Friedkin lui-même, il dit qu'il apprend en fait à filmer l'action avec ce petit budget de $80,000 tourné en 3 jours. Et il dit, je pouvais faire tout ce que je voulais, le seul truc que je n'avais pas le droit de faire, c'était de dépasser les $80,000.
Par rapport à ce qu'il montre dans ce film, The Bald Men, justement, c'est des gens qui prennent des risques. Quelque part, ça peut annoncer ce qu'il a été en tant que cinéaste, parce qu'en tant que cinéaste, il a aussi pris des risques. Quand je parle de risques, je ne parle pas de risques financiers, je parle de vrais risques en tournant par exemple Sorcereur. Donc on peut voir ce côté tête brûlée de William Friedkin déjà dans sa carrière de documentariste avec The Bald Men.
Écoutez Culture Prohibée spécial William Friedkin.
Toujours dans cette même série de documentaires narrés par l'acteur Van Heflin, aujourd'hui on ne pouvait faire l'impasse dans Culture Prohibée sur cet incroyable documentaire d'une heure qui s'appelle Mayhem on a Sunday Afternoon et qui est consacré à l'équipe des 49ers. Alors pourquoi ? Parce que on sent déjà le côté goguenard en fait de Friedkin. C'est-à-dire que Friedkin, il démarre par un petit début ironique en fait sur l'ultra-violence. Ouais, en gros, hein, c'est voyez ces hommes, ils ont l'air très bien et tout en fait. C'est un sommet de violence auquel ils vont s'adonner dans une arène. Enfin, voilà ce genre de truc. Il y a vraiment un discours très amusé en fait sur la violence qui est et son utilisation dans ce sport qui est le football américain jusqu'à utiliser un macabre, hein, un crâne humain en fait. Mais c'est quelque chose. En fait, c'est assez rigolo. Hein, et il commence par un petit historique de ce sport. C'est assez marrant. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un découpage de haute volée. On voit tout de suite qu'il alterne les valeurs de plan. On voit tout de suite qu'il apprend son métier. Il teste plein de trucs. Il mélange les images d'archives, un peu de stock shot. Hein, et pour que ce soit dynamique, il rajoute quelques ralentis très inspirés. Et puis, là où c'est intéressant pour moi, hein, c'est peut-être pas lui qui a choisi le sujet. Ça, je peux pas savoir. Mais c'est qu'il s'intéresse aux 49ers de San Francisco, qui est alors une équipe en pleine décrépitude. Ils sont derniers de la saison d'avant. Et il essaye de nous vendre le truc en disant « Bon, c'est des losers, mais cette année, ils vont faire mieux. » Et qu'est-ce qu'il filme ? Il est filmé en train de se prendre une branlée, en fait. Et le documentaire se termine là-dessus. Et c'est assez étonnant, en fait, de voir ça, parce que il y a quelque chose qu'on retrouve dans Blue Chips. C'est-à-dire Blue Chips, ce film de 1994 avec Nick Nolte, qui est un coach en mode vénère, on va dire, qui est assez intransigeant, qui est un incorruptible, qui va se laisser corrompre, en fait, c'est ça que ça raconte, qui s'occupe d'une équipe plutôt en déshérence, quoi, hein, qui est une équipe de basket universitaire états-unienne, et pour essayer de sortir de sa fange cette équipe, il va aller recruter des joueurs dont Shaquille O'Neal, hein, le vrai Shaquille O'Neal, hein, qui joue dans le film. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, c'est pour ça que je parle de ce documentaire sur le foot américain. On voit déjà la grande facilité qu'a Friedkin à filmer le sport. C'est-à-dire que les scènes de basket dans le film sont hyper bien filmées. Voilà. On peut mettre en doute que le coach soit vraiment comme ça, parce qu'un coach comme ça, il pourrait très vite amener son équipe à faire perdre tous les matchs. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Mais disons que le coach est peut-être un peu what the fuck, mais ce qui est très bien rendu par rapport au personnage de coach, ce qu'on nous montre, c'est... parce que Nick Nolte, il est sans sas dans le film, hein, il est excellent. Et ce qu'on nous montre, c'est vraiment sa solitude. Ça revient très souvent, et même quand il est entouré de monde, il est isolé dans le plan. C'est vraiment quelque chose de très bien rendu. Même quand il est avec sa femme, en fait, il n'est plus avec parce qu'ils sont divorcés, même s'ils s'entendent toujours bien. Et c'est Mary McDonnell d'ailleurs qui joue. Il est assez fidèle à ses acteurs, parce que c'est elle qui faisait la juge aussi dans son remake des 12 hommes en colère. Et son personnage de Nick Nolte, c'est un peu comme Friedkin, en fait. C'est un obsessionnel. Il passe son temps à se revoir les cassettes des matchs. Il est sans cesse à la recherche de solutions. Et il va finir par se faire corrompre. Pourquoi ? Parce que le basket aux États-Unis, bon, là, on est dans le basket universitaire, mais c'est l'équivalent un peu du football, en fait, en Europe et en France et en Angleterre. Voilà, c'est le gros sport. D'ailleurs, les sportifs les mieux payés au monde sont des basketteurs et des footballeurs. Donc, il n'y a pas de mystère, il y a un lien. Et ce qu'on nous montre, c'est l'histoire d'un type incorruptible, d'un obsessionnel qui va se laisser corrompre. Est-ce que c'est autobiographique ? Est-ce que Friedkin parle de lui-même ? On ne sait pas. Donc moi, il me renvoie plutôt une image de cinéaste incorruptible qui lui a joué des tours. Mais est-ce que c'est de ça ? Bon, lui, il dit que non, mais comme il dit un peu tout et son contraire, Friedkin, c'était un formidable raconteur d'histoire, un formidable battleur. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'aime beaucoup ce... C'est un petit film, hein, c'est pas un chef-d'œuvre méconnu. Hein. C'est un petit film de Friedkin, mais j'aime beaucoup ce film où je suis très attaché au personnage de Nick Nolte qui... à la fin, se saborde lui-même, mais dès qu'il sort dans la rue, il retrouve des gamins qui jouent au basket. Le final a beaucoup déplu aux fans de Friedkin, en fait, qui ont trouvé la fin moralisatrice. Moi, je partage pas vraiment cet avis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le Friedkin de Sorcerer. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un type qui allait au bout de ses idées. Pour aller au bout de ses idées, il a fallu qu'il en passe par des choses qu'il n'a pas aimées. Donc, il balance tout, il étale tout sur la place publique. Mais derrière, tout de suite, on sent que le basket, comme pour Friedkin, le cinéma est toute sa vie. Le basket, c'est toute sa vie. Il voit des gamins jouer dans la rue et tout de suite, il leur donne des conseils. Je trouve que c'est une très belle fin. Et je trouve qu'en fin de compte, c'est un film un peu injustement vilipendé par la critique.
Je suis d'accord avec toi. C'est un film que je trouve injustement relégué aux oubliettes. C'est pas un grand Friedkin, c'est vrai. C'est un peu bavard. Ça se traîne un petit peu à la revoyure. Mais il y a quand même ce côté âpre qu'on retrouve dans sa mise en scène, ce côté sec. Et je suis... Bon, je ne connais pas personnellement Friedkin, et ce qui s'est passé entre lui et les studios. Mais je ne suis pas sûr, en effet, que ce personnage, enfin le côté qui s'est laissé corrompre, raconte ce qui lui est arrivé à lui en tant que cinéaste. Parce que je retrouve dans ce personnage, qui est un personnage que je relis au cinéma de John Huston, comme d'autres personnages du cinéma de William Friedkin, je relis ce personnage au personnage de Gene Hackman dans French Connection, au personnage de Richard Chance, de William Petersen dans To Live and Die in L.A. Ce sont des gens qui sont confrontés au mal, et en se confrontant au mal, finalement ils finissent par basculer de l'autre côté et devenir eux-mêmes mauvais, quoi. Donc il y a ce côté-là, et je suis d'accord avec toi sur le fait que non, la fin n'est pas moralisatrice. C'est un personnage qui est intègre. Et donc, il y a ce côté de la culpabilité qui le tiraille, qui est une des thématiques du cinéma de William Friedkin. C'est pas par hasard qu'il a interviewé Fritz Lang, hein. Donc, il y a ce côté de la culpabilité qui le tiraille. Donc, moi, cette fin me semble logique par rapport à ce que ce personnage est et par rapport aux thématiques que William Friedkin aborde dans ses différents films. Baby, please.
Baby, please don't go. Vous écoutez Culture Prohibée.
Baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I beg you all night long, baby.
Alors Thomas, tu parlais de cet entretien avec Fritz Lang. Je crois que oui, ce qui intéressait beaucoup Friedkin, c'est de... Alors déjà, c'était le travail de ses grands maîtres. Ouais, il considère Fritz Lang comme un immense cinéaste, à juste titre d'ailleurs. C'est quand même avec Friedkin, que Fritz Lang va dire parmi les choses les plus intéressantes. Ce fameux entretien avec Fritz Lang, il est assez étonnant, parce que Fritz Lang, qui a écrit des livres, qui n'était pas avare de se raconter, il dit des choses qu'il aborde assez peu, en fait. Il explique, parce que ce qui est vrai que Friedkin, comme tu le dis, je pense que lui, ce personnage dans Blue Chips de Nick Nolte, c'est incorruptible, c'est une certaine vision de l'artiste incorruptible, de cet artiste c'est même presque un artisan dans Blue Chips, parce qu'il n'y arrive pas vraiment. C'est pas un grand coach, mais il pourrait être un grand. Voilà, c'est ce qu'on appelle un loser magnifique, quoi, comme on les aime dans le cinéma. Et il y a chez Friedkin une véritable adoration, fascination pour la création. Il est très redevable, il les cite énormément en fin de compte, hein, de ses grands maîtres, qui sont peu nombreux quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui trouvent grâce à ses yeux. Mais dedans, il y a Fritz Lang, il y a Henri-Georges Clouzot. Et il adore Clouzot et Lang. Bon, à juste titre, hein, on ne va pas dire qu'il a tort. Hein. Et il a la possibilité, donc pour un document de travail, donc c'est de faire cet entretien avec Fritz Lang, dans lequel quand même Fritz Lang, qui n'aimait pas beaucoup... s'exprimer. Hein. Mais il nous apprend quelques trucs. Alors, il y a des anecdotes de l'ordre du sympathique, hein, comme quoi il a embauché des vrais criminels pour faire ce tribunal dans M le Maudit, comme quoi, pour faire de la figuration. Enfin, des choses assez rigolotes. Puis il y a des choses beaucoup moins... beaucoup plus étonnante, hein, où il dit que toute sa première... Il n'aime pas du tout Metropolis. Il dit pourquoi, d'ailleurs, hein. Il trouve que le film, en fait, il n'a pas de cœur. Il n'a pas... il manque d'âme, en fait, parce qu'il ne s'intéresse pas aux ouvriers, dedans. Et il trouve que c'est l'erreur du film. Et en fait, il dit qu'il n'aime pas du tout tous les films qu'il a fait en Allemagne. Il considère que ses vrais bons films, c'est ceux qu'il a fait aux USA. C'est assez étonnant. Et il raconte des choses, sa rencontre avec Goebbels, sa fuite vers Paris, sa rencontre avec Goebbels, la paranoïa qu'il y a derrière. Là, évidemment, paranoïa, Friedkin, bon, qui a vu Bug et quelques Friedkin, voilà, dont des Friedkin des débuts, dont on va parler aussi, c'est que la paranoïa est au centre aussi du cinéma de Friedkin. Et la manière dont Fritz Lang donc, va fuir l'Allemagne vers la France pour ensuite aller aux États-Unis. Et même si c'est un travail de commande, on peut faire des liens aussi avec ce qu'il a fait en 2007, The Painter's Voice. On pense au mystère Picasso et effectivement à Clouseau qui filme Picasso au travail. Et là, il va filmer 50 travaux qui sont faits par deux restaurateurs du Getty Museum à Los Angeles. Donc c'est Jean-Paul Getty était un personnage très riche qui a des musées, qui a des fondations. Et là, il s'intéresse, qui est mort en 1976, hein, donc le film lui est postérieur, c'est 2007. Et il s'intéresse à la restauration de deux tableaux d'un peintre français, Jean-Baptiste Oudry, qui est un peintre français d'ailleurs, qui est mort à Beauvais, pas très loin de là où on enregistre l'émission, en 1755, à 69 ans. Et il y a deux peintures, le rhinocéros et une autre qui s'appelle le lion, qui sont dans un état pitoyable. Et Marc Léonard, donc, qui est restaurateur des peintures, conservateur, et Tierna Doherty, qui est son assistante, vont travailler à restaurer ces deux tableaux. Et on voit tout le travail d'artisan, là, c'est pareil, hein, et tout le travail de mise en scène aussi de Friedkin, qui utilise des cadres dans le cadre, pour nous faire un peu comme une succession de tableaux. C'est assez brillant, alors que c'est un tout petit truc de commande, hein, mais on sent qu'il s'investit dans le projet, qu'il utilise un peu le split screen aussi. Et puis, petit à petit, on arrive au final à ces tableaux restaurés. Et on a suivi de manière très pédagogique tout ce travail. C'est très, très, très intéressant. Alors, c'est pareil, The Painter's Voice, c'est pas facile à voir. Je crois qu'on peut remercier l'ami Thomas Roland présent dans ce studio, parce que Thomas, tu as un DVD-R de ce film qu'on pouvait acheter aux États-Unis, qui est une pièce maintenant, qui est une rareté, hein, puisque c'est ce travail de commande. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Friedkin, en fait, c'est un truc qui revient souvent en fait, dans son cinéma. En fait, il filme les gens au travail. Il a gardé de ce côté... il vient du documentaire, quand même. Et il a gardé de ça, je trouve. Quand il filme les... D'ailleurs, il se documente beaucoup pour faire ses films. French Connection, il filme des policiers au travail. C'est hyper crédible. D'ailleurs, lui-même, il va aller avec les policiers passer des menottes à des truands. Il va faire des patrouilles la nuit. Et il va... On sait qu'il avait un oncle qui était flic. Friedkin dit de lui, mon oncle... En fait, quand j'étais petit, je savais pas, je croyais que c'était un voyou. Mais en fait, j'ai découvert qu'il avait une plaque, donc en fait, c'est un flic. C'est très drôle quand il raconte ça. Et il est fasciné par tout ça. Et il est fasciné par les gens au travail. Et les gens au travail, on ne voit que ça. Mais dans tous ces films, tout paraît crédible dans ces films. C'est ça qui est assez étonnant. Y compris jusque dans l'aspect rébarbatif, d'ailleurs. Hein, voilà, selon ce qu'il montre. Donc, je pense aussi que chez... Cette attirance vers les grands maîtres, mais je pense aussi, Thomas, que Friedkin, c'est quelqu'un, comme on l'a vu dans The Bold Man, comme on le voit avec les 49ers, et puis comme on le voit dans Blue Chips, c'est quelqu'un qui filme des gens au travail, comme on le voit dans d'autres films, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est important chez lui.
C'est vrai que son cinéma est toujours... c'est toujours ce côté très documentaire où il filme des choses qui nous paraissent a priori sans importance. Je pense notamment à une petite scène de Police Fédérale Los Angeles où on voit les deux personnages principaux ranger la voiture au garage, remonter dans les étages, ranger les armes, prendre des rapports, etc. Et c'est vrai que finalement, dans le récit, ça n'apporte pas grand-chose, ces quelques plans. Mais ça installe une ambiance... Quelque chose, ça installe un réalisme que d'autres n'auraient peut-être pas mis en scène, quoi.
quand on regarde la caméra de Friedkin, c'est intéressant que vous le mettiez en avant, c'est qu'il a une certaine proximité par rapport au personnage qu'il filme. Il essaye au final, dans leur gestuelle habituelle, d'essayer de comprendre la personne, comme si au final son psyché passait par ce qu'il faisait.
Pour conclure cette émission, on ne peut pas, mon cher Thomas, ne pas aborder, puisqu'on a beaucoup parlé des documentaires de Friedkin, ne pas aborder cet étonnant documentaire qu'il signe en 2017, c'est The Devil and Father Amorth, qui commence par une recontextualisation de l'exorciste, hein, du film qui l'a rendu célèbre, et derrière, qui enchaîne sur ce fameux père Amorth, qui est l'exorciste du Vatican. Et Friedkin semble essayer, on ne sait pas trop en fait, de démontrer que, en fait, père Amorth, il autorise Friedkin, qui est mort depuis le tournage, il autorise Friedkin à venir filmer un exorciste d'une certaine Christina, le 9e, je crois, un truc comme ça. Et après, on a Friedkin, on a l'impression que Friedkin a un côté condescendant, parce qu'il dit au départ qu'en fait, il n'y croit pas du tout. Et puis en fait, petit à petit, le truc est un peu insidieux. Il va voir des scientifiques, il va voir. Et on a l'impression qu'il sème le doute tout en disant à la fin, moi je sais pas en fait si vraiment. Parce qu'il y a des psys qui disent qu'elle a un trouble dissociatif, cette personne. Et puis moi je me pose la question de savoir s'il a pas trafiqué la voix. Parce que je trouve que. Moi j'y crois pas à cette voix qui sort du corps de cette femme. Et on a l'impression qu'elle est en vocodée, cette voix. Moi, il me pose beaucoup de questions, ce Devil, que quand j'ai revu, j'ai trouvé plus intéressant qu'à la première vision. Mais moi, je le trouve très questionnant. Voilà.
Friedkin a toujours été plutôt agnostique comme cinéaste, hein, comme homme. Et même si certains peuvent en douter à la vision de l'exorciste en disant que c'est un film prosélyte. Mais non, c'est un film qui questionne plus qu'autre chose. Moi, je vois dans ce documentaire « The Devil and Father Amorth » plutôt une forme d'introspection d'un homme qui peut-être est vieillissant, parce que quand il a fait le film, il devait avoir entre 70 et 80, quelque chose comme ça, hein. Donc, et qui s'interroge. Donc moi, j'y vois surtout ça. Mais c'est vrai que les scènes d'exorcisme ne me convainquent pas plus que ça non plus. Parce qu'il n'y a... Alors, peut-être que s'il avait trafiqué la chose, la voix, effectivement, on peut se dire qu'il a trafiqué la voix.
Je ne sais pas, mais c'est l'effet que ça me donne, en tout cas.
Oui, non, mais moi, j'y ai pensé aussi en revoyant le film. Et je me suis dit, il n'y a pas d'effet spectaculaire avec le visage qui se transforme ou des choses comme ça, comme lui l'a mis en scène dans son propre film. Alors, est-ce que, justement, cette absence de dramaturgie, d'effet spectaculaire... Est-ce que justement, ça n'enforce pas l'aspect réaliste de ce qui se passe ? Alors peut-être que cette femme est tout simplement un problème psychiatrique, hein, c'est vrai. Mais il y a quand même des scientifiques qui s'interrogent aussi, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils voient, qui ne sont pas sûrs que cette femme est malade. Mais pour moi, c'est un homme qui doute. Ce film, c'est le film d'un homme qui doute, de la façon la plus nietzschéenne du terme, qui doute et qui peut-être se voit arriver de plus en plus vers la fin de sa vie.
Peut-être Thomas, peut-être. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette première émission consacrée à Friedkin. On a beaucoup parlé de ses documentaires, un tout petit peu de ses films de fiction. Et on parlera un peu dans la prochaine émission, hein, la semaine prochaine, de son travail sur les séries. Et des films des débuts, des films un peu oubliés, mais surtout d'un film qu'on aime beaucoup qui s'appelle Le sang du châtiment. Et vous pourrez entendre à nouveau des propos de Jean Touris, donc qu'on remercie à nouveau. Jean Touris, l'auteur des démons de William Friedkin, disponible chez Marest Éditeur. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour passer de nouveau une heure en compagnie de Bill Friedkin. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.